écoutez Radio France Internationale, il est 20h, à Paris 19h en temps universel.
Marion Cazanov.
Israël fait appel de la décision de la CPI. La Cour pénale internationale a lancé la semaine dernière des mandats d'arrêt contre deux dirigeants israéliens. Israël conteste donc aujourd'hui. Une décision qui gêne toujours la France. Elle prend position aujourd'hui seulement et estime que Benjamin Netanyahou dispose d'une immunité. On voit pourquoi en début de journal. Une première en France, deux plaintes déposées contre des associations pro-Israël accusées de complicité de génocide à Gaza. À Berlin, inquiétude du secteur culturel après des économies annoncées pour la capitale allemande qui n'épargneront aucun secteur. Et puis aux États-Unis, Donald Trump continue de peaufiner l'équipe qui l'accompagnera à la Maison-Blanche. Il vient de nommer son représentant au commerce qui devrait durcir les droits de douane. Et cela inquiète notamment la filière française des spiritueux.
RFI.
Près d'une semaine après les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale, Israël fait appel de cette décision historique. La CPI avait suivi les réquisitions de son procureur et émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, tous deux poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Israël, qui ne reconnaît pas l'autorité de la CPI, fait donc appel ce soir de cette décision. Ce mandat d'arrêt soulève toujours des questions aussi en France, où le gouvernement a fini par se positionner il y a quelques heures. Julien Chavanne, Paris estime que Benjamin Netanyahou bénéficie d'une immunité en France.
Comme Israël n'est pas membre de la CPI, ses dirigeants pourraient être paradoxalement intouchables. Le ministère français des Affaires étrangères s'appuie sur un article flou du texte fondateur de la Cour pénale internationale, article qui peut d'ailleurs être interprété de différentes manières. Mais le temps mis par la France pour trouver une position officielle, 6 jours, et la manière dont Paris l'a rendu public, un simple communiqué, en dit beaucoup sur la gêne du gouvernement français. Cette immunité pour Benjamin Netanyahou serait en réalité au cœur d'un accord entre Paris et Tel Aviv. Israël en aurait fait une condition indispensable pour accepter que la France joue un rôle dans le cessez-le-feu au Liban. D'autres pays européens ont fait, eux, le choix opposé. L'Italie, le Royaume-Uni ont annoncé qu'ils respecteraient leur engagement auprès de la CPI, à savoir arrêter toute personne recherchée par la Cour de la Haye. La décision d'Emmanuel Macron est critiquée en France, jusque dans son propre camp. Pour le Premier ministre Michel Barnier, la France doit appliquer rigoureusement les règles de la CPI.
Julien Chavanne. Et justement, la députée écologiste Sandrine Rousseau dénonce ce soir cette position contradictoire du gouvernement français.
C'est vraiment le bateau ivre de la France dans ce conflit entre Israël et Gaza. C'est qu'on ne sait pas où se situe la France. En fait, la France, historiquement, a eu une position extrêmement claire, notamment par la voix de Chirac, dont on sait quand même que je ne suis pas le premier soutien. Je ne comprends pas ces revirements de la France. Je pense qu'aujourd'hui, il nous faut avoir une voix forte, une voix ferme, qui est de dire que toutes les décisions des instances internationales s'appliqueront sur notre sol et que nous les ferons appliquer ailleurs dans le monde autant qu'il nous est possible de le faire.
La députée écologiste Sandrine Rousseau au micro de Charlotte Urien-Tomaka. En France, toujours deux plaintes déposées pour complicité de génocide à Gaza. Elles visent des associations pro-Israël. Elles ont été déposées au tribunal judiciaire de Paris par deux avocates, Damia Taharawi et Marion Lafouge. L'une représente une victime franco-palestinienne, l'autre se fait la voix de l'UFJP, l'Union juive française pour la paix. Les associations pro-Israël visées sont notamment accusées d'avoir bloqué l'acheminement d'aide alimentaire à Gaza. Maître Damia Taharawi détaille cette accusation.
Une complicité génocide, c'est des individus organisés sous forme de collectif qui se mettent physiquement debout sur la route, en fait, ils empêchent concrètement l'accès à l'aide humanitaire et donc l'accès à la nourriture, l'accès aux médicaments, l'accès aux anesthésiens, l'accès aux soins et à tous les éléments qui permettent à la population de survivre. Autre forme de comportement, c'est l'organisation de ces blocages. Donc non seulement ces personnes et ces collectifs bloquent, mais en plus ils appellent en langue française à les rejoindre pour bloquer et ils organisent des covoiturages, des convois pour empêcher en fait l'accès de la population civile à l'aide humanitaire. On a simplement enquêté en suivant ce qu'ils diffusaient sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, et en retraçant tout ça, on a pu reconstituer les éléments de preuve qui nous permettaient d'identifier ce comportement, tout simplement.
L'avocate Damia Taharawi, qui a donc déposé cette première plainte en France pour complicité de génocide à Gaza, propos recueillis par Olivier Sherman. Dans le même temps, la trêve se poursuit au Liban entre Israël et le Hezbollah. Elle est entrée en vigueur tôt ce matin. Des milliers de personnes en profitent, des milliers de Libanais en profitent pour retourner chez eux. Mais Israël prévient qu'il y aura cette nuit des restrictions de mouvement dans le sud du pays. Interdiction de se rendre dans les villages du sud qui ont été évacués. Interdiction également de traverser le fleuve Litani, cela jusqu'à demain matin. En Syrie, les combats entre djihadistes et soldats font 57 morts dans le nord. C'est le dernier bilan de l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le HTS, une ancienne branche d'Al-Qaïda qui tient l'un des derniers bastions rebelles du pays près d'Alep, a lancé une attaque avec des groupes alliés contre les forces du régime de Bachar al-Assad. À l'écoute de Radio France Internationale, il est 20h06 à Berlin, 19h06 en temps universel. La capitale allemande où la scène culturelle est en émoi, la ville doit faire de sérieuses économies et le secteur culturel ne sera pas épargné. Correspondance sur place de Pascal Thibault.
N'achevez pas le travail que les nazis ont commencé. L'ancien directeur de l'Opéra Comique de Berlin, le metteur en scène juif australien Barry Kosky, a dénoncé ces derniers jours avec verve dans une tribune les conséquences négatives qu'auront pour lui les réductions budgétaires prônées par la ville. Dans le passé, la capitale allemande a vu ses dépenses augmenter sensiblement. Cela a aussi profité à la culture, carte de visite centrale de Berlin. Mais le réveil est dur avec des coupes budgétaires drastiques auxquelles n'échappe pas ce secteur. 12% d'économies, soit 130 millions d'euros, doivent être trouvés en 2025 pour les opéras, les théâtres, les musées et les autres institutions culturelles subventionnées. Protestations, pétitions, manifestations, la mobilisation est forte pour obtenir des concessions de la municipalité berlinoise, gérée par une coalition alliant chrétiens et sociaux-démocrates. L'adjoint à la culture est particulièrement attaqué et se voit accusé de ne pas suffisamment avoir défendu son secteur et de ne pas avoir suffisamment réfléchi à des économies structurelles pour éviter des coupes budgétaires perçues comme aveugles. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Un nouvel incident diplomatique entre un pays européen et la Russie sur fond de guerre en Ukraine. L'Allemagne dénonce aujourd'hui l'expulsion de deux journalistes qui travaillaient en Russie. Le Kremlin dit agir en représailles de la fermeture du bureau d'une chaîne de télévision russe en Allemagne, ce que dément Berlin. La guerre en Ukraine, lors de sa campagne, Donald Trump, futur président américain, promettait de la régler avant même sa prestation de serment en janvier. Il est en train de former son gouvernement et vient de nommer un émissaire pour l'Ukraine et la Russie. Il s'agit de l'ancien général Keith Kellogg, un proche du milliardaire. Ce dernier, dans une note, estimait que désormais l'aide à l'Ukraine ne devait être débloquée que si Kiev participe à des pourparlers avec la Russie. Autre nomination dans ce futur gouvernement Trump, celle de Jameson Greer. Il sera représentant au commerce et devrait durcir les droits de douane. Si l'Europe n'est pas encore visée, elle craint de l'être bientôt. Alors, forcément, Agnieszka Kumor, la filière viticole en France s'inquiète.
Les producteurs français craignent d'être victimes de la nouvelle guerre commerciale, estime Gabriel Picard du groupe Vins et Spiritueux Picard, président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France.
Il y a toujours beaucoup de surprises possibles avec M. Trump. S'il y a une taxe de l'ordre de 10% à la liberté de chacune des entreprises de voir ce qu'elle peut faire, si c'est une taxe de 50 ou de 100%, ça veut dire que c'est punitif et que le marché est définitivement fermé.
Les États-Unis restent le premier marché d'exportation pour les alcools français. Impossible de le perdre, martèle Gabriel Picard.
Ce qu'on essaye de faire, et on a déjà commencé à le faire, c'est de travailler le plus en proximité possible avec les équipes du président Trump pour que les incompréhensions ou que les sujets possibles de discussion soient expliqués. Et à partir de là, d'arriver à trouver des solutions qui soient les plus favorables pour eux et pour nous.
Les producteurs n'oublient pas la précédente taxe Trump imposée en 2019. À l'époque, la filière viticole française avait accusé 600 millions d'euros de pertes. Suspendue par Joe Biden, cette taxe de 25% reste telle l'épée de Damoclès au-dessus de la tête des vignerons français.
Agnieszka Kumor du service économie de RFI. Enfin, en football, suite de la cinquième journée de Ligue des Champions, toujours en phase de poule, parmi les matchs à suivre ce soir, Monaco-Benfica, l'autre club français en lice, c'est Lille qui se rend à Bologne. Autre match également, Liverpool-Real Madrid. Tous ces matchs commencent d'ici 50 minutes à 20h, temps universel. Pour l'heure, il est 20h10 à Paris, 19h10 en temps universel. À suivre, Accent d'Europe avec Frédéric Lebel.